Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce de nous retrouver dans la maison du Seigneur, même si nous ne sommes pas nombreux. Je crois que ce qui est important, c'est que nous réalisions la présence du Seigneur. Et lorsque nous réalisons la présence du Seigneur et que notre cœur s'ouvre, il a quelque chose à nous dire. Alors je voudrais que ce soir que nous lisions la première lecture dans le livre des Actes au chapitre 17, une parole importante. L'apôtre Paul se trouve à Athènes. Et il a des choses à leur dire, ils sont là, tous rassemblés. Et il va dire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Il va dire quelque chose, on va lire Actes chapitre 17, verset 30. C'est le verset 31 qui nous intéresse, mais c'est bien de lire le verset 30 avant. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Regardons la réaction des gens. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent de Nice, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont bien réagi. Ça n'a pas changé. L'évangile est prêché à des multitudes et il y en a quelques-uns qui répondent. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu veut que tous les hommes entendent la parole de Dieu. Dieu veut que nous sachions tous qu'il a fixé, comme dit le verset 31, un jour où il jugera le monde. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux cette affaire? Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Ça fait réfléchir, oui ou non? Nous, on ne sait pas quel. Vous le savez, vous, le jour que Dieu a fixé? Dieu a fixé un jour. Il faut que nous comprenions bien une chose, que Dieu a fixé un jour où tout le monde passera devant lui, où le monde sera jugé. Alors pour cela, il y a un verset qui va nous aider à prendre ces choses au sérieux. C'est dans le prophète Amos. Dans le prophète Amos, au chapitre 4, le peuple s'est beaucoup, beaucoup détourné de Dieu. Beaucoup. Est-ce que vous croyez qu'en France, les gens cherchent Dieu? Alors, tiens donc. Est-ce que les gens cherchent Dieu en France? Est-ce que les chrétiens cherchent Dieu en France? Ça, c'est une question encore plus sérieuse. Je ne suis pas sûr que tous les chrétiens cherchent Dieu. En tous les cas, dans Amos, au chapitre 4, on voit que Dieu va faire tout ce qu'il doit faire pour ramener les gens à lui. Alors, on lit dans Amos, chapitre 4, verset 4... Ça commence par une parole bizarre, surtout que ça vient de Dieu. Je ne sais pas, vous allez m'aider, comme on n'est pas nombreux, vous pouvez m'aider ce soir à préparer la prédication. Je l'ai mal préparée, alors vous allez m'aider à la préparer, d'accord? Amos chapitre 4, verset 4, « Allez à Bethel », c'était des lieux de culte ça. Et, qu'est-ce que vous avez écrit dans votre Bible? C'est Dieu qui parle. Hein « Allez à Gilgal », un autre lieu de culte, « et péchez davantage ». Moi je vous avoue, que la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, attends, mais c'est Dieu qui parle. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Comment? Eh oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Par la bouche du prophète Amos. Et on se demande, qu'est-ce que Dieu veut qu'il comprenne? Alors on lit la suite. Vous m'aiderez à préparer la prédication? Les stagiaires, c'est un ordre. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, donc c'est bien Dieu qui parle, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville. Et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. J'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit, et que vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi. Alors vous remarquez que Dieu parle au pluriel, et puis tout d'un coup, à partir du verset 12, Dieu parle au singulier. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Vous pouvez mettre votre prénom, votre pays, votre ville, ça marchera toujours. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous avez lu avec moi, c'est un drôle de passage quand même. Un drôle de passage où on voit tout ce que Dieu est capable de provoquer, de faire pour que les gens viennent ou reviennent à lui. Parce que le problème, il est toujours le même. Il y a des gens qui sont venus à Dieu, mais on voit bien souvent revenir à l'Éternel, que le méchant retourne à Dieu. On voit cette affaire où on voit en tous les cas un Dieu qui va tout faire pour que nous revenions à lui. C'est impressionnant quand même quand on relit le texte. Et malgré ça, vous n'êtes pas revenus. Et il y a un message. Et le message qui suit ce qu'on a vu tout à l'heure dans les actes, à savoir qu'un jour Dieu jugerait le monde, il y a un message qui précède cette parole, c'est « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Moi, la première fois que j'ai lu ce verset, il y a 34 ans, la première fois que j'ai lu ce verset, pour moi c'est un message sévère. Et les années ont passé, et pour moi ce message, c'est un message d'amour. Je ne sais pas comment vous le voyez. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est un message d'amour. Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, partout, qu'ils ont à se repentir. Et là, nous voyons dans le temps du prophète Amos, mais c'était comme aujourd'hui, comme ça souvent était le cas. Il y a même eu des siècles pires encore, où pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé, tellement le pays était embarqué dans le péché, pendant 400 ans, entre le prophète Malachie, oui, et la venue de Jean-Baptiste, il y a eu 400 ans de silence, où il n'y a pas eu un prophète qui a parlé de la part de Dieu. Pourtant, il devait y avoir des gens qui aimaient Dieu. D'ailleurs, la preuve, Élisabeth et Zacharie, ils aimaient Dieu, vous voyez. Vraiment, ils craignaient Dieu. Mais Dieu a jugé bon, pendant 400 ans, de se taire. Là, on voit, du temps du prophète Amos, Dieu qui parle. Alors, Dieu sait s'il doit nous parler, Dieu sait s'il doit parler. Dieu sait ces choses. Et je voudrais que nous comprenions ce soir que Dieu sait ce qu'il a à vous dire. Il y a des choses que Dieu a à vous dire. Je regardais hier la façon dont les Quakers priaient. Parce que vous savez, chaque dénomination a sa façon de prier. Par exemple, nous, on prie, des fois on prie, on parle trop. Les Quakers ne parlent pas. Ils ne parlent que si vraiment quelqu'un est poussé à exprimer une prière. Même dans un grand auditoire, il n'y a que quelques-uns de temps en temps qui prient parce qu'ils partent du principe où d'abord la prière, c'est écouter Dieu. Vous savez, nous c'est trop peut-être dans l'expression, eux c'est peut-être pas assez dans l'expression. Mais je pense qu'on n'a pas à avoir peur du silence. Moi, ça m'est arrivé ici que des fois, il y a quelques minutes de silence, quelqu'un entonne un chant parce qu'il était dérangé par le silence. Moi, le silence, ça ne me dérange pas du tout. Et je pense que c'est une bénédiction, le silence. On le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que Dieu veut parler. Quand quelqu'un s'est détourné de lui ou quand quelqu'un est loin de lui, Dieu veut dire quelque chose. Alors il y a des paroles qui font réfléchir, comme la première que nous avons lue. C'est pour ça que je l'ai lue volontairement. Aller à Gilgal et pécher. Aller à Bethel et pécher davantage. Eh bien oui, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église, que parce qu'ils offrent des sacrifices, ils sont venus à Dieu, ils sont revenus à Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec une jeune fille qui me disait que, eh bien, elle a connu une chrétienne qui allait en boîte de nuit, et après la boîte de nuit, eh bien, elle partait dans un lieu de culte. C'est exactement ça que Dieu est en train de dire. Et Dieu est en train de dire, nous pouvons aller dans un lieu de culte et pour cela vivre dans le péché. Et c'est quelque chose que Dieu voit. Ils faisaient des sacrifices, on l'a lu. Ils allaient à l'église, au temple. Ils priaient. mais pas comme Dieu voulait. Parce que vous savez, il y a une façon de prier qui plaît à Dieu. Il y a une façon de prier qui ne plaît pas à Dieu. Il y a une façon de chanter qui plaît à Dieu. Si je chante et que je ne cherche pas la volonté de Dieu, est-ce que vous croyez que ça plaît à Dieu ? Bien sûr que non. Donc il y a une façon de faire qui plaît et une façon de faire qui ne plaît pas à Dieu. Et là, dans ce texte, vous avez certainement été étonné, même moi, si j'ai relu tout à l'heure ce texte pour la énième fois, tout ce que Dieu est capable de faire pour amener les hommes à lui. D'ailleurs, quand vous regardez après l'enlèvement de l'Église, ce qui va se passer sur la terre, vous êtes quand même surpris de voir combien il va y avoir une grande foule qui va se tourner vers Dieu quand il va y avoir les fléaux, les coupes de la colère et les trompettes. Vous connaissez ces affaires, ou plutôt les fléaux, les trompettes et les coupes. Mais combien de gens vont se tourner vers Dieu à cause de ces fléaux ? Mais là, ça ne marche pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des choses quand même qui peuvent nous étonner parfois ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas des choses bizarres qui se trouvent sur la terre ? Ou c'est que la nature qui... Est-ce que vous croyez que Dieu contrôle la nature ? Vous croyez que Dieu contrôle toute la... Moi, je le crois. Que Dieu contrôle tout. C'est écrit qu'il fait enfanter les biches. Vous connaissez tous ces psaumes. Dieu règne sur tout. C'est écrit, son règne domine sur toute chose. Quand vous lisez le Notre Père, le fameux Notre Père dominical, et à la fin, il est dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors, comment on peut en arriver là ? Parce que quand on lit le prophète Amos, on se pose la question, mais comment quelqu'un peut en arriver là ? Comment quelqu'un peut en arriver à abandonner Dieu ? C'est une question qu'on peut se poser. Bien sûr qu'on a tous des réponses, qu'on n'a pas veillé, qu'on n'a pas prié, qu'on n'a pas fait attention. Mais ça vient, je crois, petit à petit, et que le diable, il est beaucoup plus rusé que ce qu'on pense. Alors, si vous voulez comprendre comment on peut en arriver à ce qui s'est passé du temps du prophète Amos, le mieux, c'est que vous méditiez le psaume 106. Je ne sais pas si vous avez déjà médité ce psaume, mais ça vaut quand même la peine, parce que dans le psaume 106, il y a tout un processus qui nous indique comment on en arrive à se détourner de Dieu. Dans le psaume 106, alors on va lire quelques versets. C'est important, mes frères et sœurs, parce que je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Dieu, que vous voulez rester attaché à Dieu, que vous voulez revenir à Dieu. Dimanche, il y avait un couple, ça fait 15 ans qu'ils ont abandonné le Seigneur. Et ils revenaient à Dieu. Mais joyeux de revenir au Seigneur. Et en plus, ils ont galéré. Ils ont passé par des chemins extrêmement compliqués. Mais ils me disent, voilà, monsieur Gau, on a décidé de revenir à Dieu. On vient dans cette assemblée, on veut vraiment suivre le Seigneur. 15 ans d'égarement. Et ils ont passé par toutes sortes d'épreuves. Alors, regardons un peu ce qui se passe. Au verset 7, vous y êtes ? Vous m'aidez ? Oui, de m'aider, ça me va bien. Il vous faut m'aider. Il faut penser au pasteur quand même. Psaume 106, verset 7. Qu'est-ce qui se passe ? Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Vous voyez ? Ça commence avec quoi ? De l'ingratitude. Quand vous mangez, ça vous arrive de prendre un repas ? Est-ce que vous remerciez le Seigneur ? Est-ce que vous dites, Seigneur, merci pour ce sandwich ? Pour un sandwich. Je me rappelle une fois, je faisais une colo et j'avais dit, il faut remercier Dieu, les enfants, c'était bien plein d'enfants, même pour la couverture. Et un gosse, mais vraiment de bon cœur, n'importe quoi, monsieur Beau, remerciez Dieu pour une couverture, n'importe quoi. Et je dis, tu sais, en Afrique, il y a des enfants qui, toutes les nuits, meurent de froid parce qu'ils n'ont pas de couverture. Le gosse, il a fait des yeux comme ça. Je ne savais pas, il a dit. Et j'ai dit, on ne s'en rend pas compte, mais avoir une couverture, c'est une bénédiction. Je sais, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je pense qu'il faut remercier Dieu pour tout. Pour un verre d'eau, si les stagiaires, par exemple, après, m'offraient le restaurant, par exemple, vous voyez, eh bien, il faut avoir l'idée. Mais il faut savoir dire merci aussi aux stagiaires. Voilà. Je vous dirai où c'est que j'aime aller. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Verset 13. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Vous voyez ? Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Vous voyez ? Ça commence, on ne rend pas grâce. Vous voyez ? On oublie ses œuvres. Parce que vous savez que Dieu a préparé des œuvres. Vous savez que Dieu a des œuvres pour vous. Est-ce que vous le savez ? Il faut savoir les attendre. Il y a des gens, je suis sûr, qui sont passés à côté de bénédictions parce qu'ils n'ont pas su attendre les mois ou les années qu'il fallait attendre. C'est sûr que nous, on est impatients, on aimerait que Dieu fasse quelque chose de suite. Mais voyez, c'est un processus. Parce que quand on en arrive du temps du prophète Amos à ce niveau-là, il s'est passé quelque chose. Voyez, on ne rend pas grâce, on oublie ses œuvres, on n'attend pas l'exécution de ses desseins. Verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur. Ils oublièrent le sauveur. Moi, quand je vois des rétrogrades, je me demande comment ils ont fait. Eh bien, voyez, ils oublièrent Dieu, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Pourtant, ils n'en avaient pas vu des miracles. Vous auriez pas aimé voir, vous, les 10 plaies d'Égypte, la mer rouge s'ouvrir. En fait, ça commence à être intéressant de voir la mer rouge s'ouvrir. Vous trouvez pas que c'était merveilleux? Eh bien, ils ont oublié ça. Ils ont oublié. On a du mal à le croire. Ils oublièrent ce qu'ils avaient vu en Égypte. Verset 24. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Voyez, ça commence, on oublie de rendre grâce. Et là, ça commence, on méprise le pays des délices. Délices, voyez, si je vous parle du ciel, si je vous parle du ciel, est-ce que c'est bien qu'on nous parle du ciel dans l'Église? De ce qui se passera, même si c'est très succinct, est-ce que c'est une bénédiction? Ils méprisaient, oh le ciel, tu parles, le ciel, qu'est-ce que tu nous parles du ciel? Tu n'as jamais été premièrement, mais qu'est-ce que tu racontes, le ciel, tout ça, c'est un peu virtuel. C'est vrai que c'est... Mais enfin, quand même, quand Jésus dit qu'il va nous préparer une place, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le croyez que c'est vrai qu'il va nous préparer une place, une maison dans le ciel, qui a plusieurs demeures? Enfin, moi, je trouve que ça doit être super bien. Ils ont méprisé ces choses. J'espère que vous ne méprisez pas les choses que Dieu vous a préparées pour l'éternité. Vous voyez, on commence, on ne rend pas grâce pour le sandwich, et on en arrive à mépriser les choses divines que Dieu a préparées, parce qu'on ne les a pas vues, parce que tout ça, c'est un peu trop lointain. Moi, le ciel, écoutez, moi j'ai mes problèmes, j'ai ma facture, dois payer, vous me parlez du ciel, c'est bien joli. Eh bien, moi je crois que Dieu nous a laissé plein de paroles et de promesses pour que notre cœur soit plein d'espérance. Vous avez vu, on oublie de rendre grâce. J'espère que vous veillez à ces choses. Parce que vous savez, on glisse. C'est vrai qu'il y a des pots de banane. On peut glisser, paf, comme ça. Mais il y a des chutes qui sont toutes petites et insignifiantes. Il y a des choses importantes. Oui, bien sûr qu'il y a des choses importantes. C'est sûr que payer son loyer, est-ce que c'est important de payer son loyer? Bien sûr. Mais ça ne doit pas, parce que c'est une épreuve, parce qu'il y aurait un problème financier, nous amener à oublier les choses spirituelles. C'est comme ça qu'ils en sont arrivés là. Verset 35. Regardez comment ça dégénère. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leur idole. Vous avez vu comment ça dégénère vite? On fait comme les païens. On fait comme les autres. On parle comme les païens. Il y a beaucoup d'églises où vous ne voyez pas la différence entre un chrétien et un païen. Je vous choque peut-être, mais je l'ai vu, hélas. Je crois que quand on est chrétien, il y a une différence. Et là, vous voyez, on se mélange avec les nations, on apprend leurs trucs à eux, leur façon de faire, etc. Les païens se moquent, eh bien les chrétiens font pareil. Les chrétiens, ils font plus la différence entre le bien et le mal, eh bien c'est pareil, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la société. Ils s'étaient mêlés avec les gens du monde. Verset 43, pour terminer, vous voyez, verset 43, mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein, et la conclusion est là, ils devinrent malheureux par leur iniquité. Voilà le résultat, voilà la descente, on oublie, on méprise, et le résultat, c'est qu'on devient malheureux. Vous voyez comment ça se passe? Et parce que mais moi, quand je lisais Amos, ou certains textes, je me disais, mais c'est pas possible d'en arriver là. Mais voyez, vous avez les explications, petit à petit, petit à petit. Et Amos, il arrive parce qu'à un moment donné, Dieu veut intervenir. Dieu va savoir nous parler. Vous comprenez bien que Dieu nous aime trop pour ne pas nous laisser dans le pétrin. Quand Amos est arrivé, il n'est pas arrivé pour les juger. Il est arrivé pour leur dire, mais vous rendez-vous compte, tout ce que Dieu est en train de faire, tout ce que Dieu a été obligé de faire pour que vous reveniez. C'est un message d'amour. C'est sûr que quand on est, comme on dit, le nez dans le guidon, on ne comprend pas ces choses. Mais moi, je crois que même la sévérité de Dieu, c'est un message d'amour. Dieu sait très bien, hélas, c'est triste à dire, que souvent, les hommes n'écoutent que quand ils sont dans les problèmes ou dans les difficultés. C'est malheureux. C'est malheureux, mais moi je l'ai vu ici, combien de fois, des gens qui sont venus que parce que leur père était malade, en train de mourir, que parce que la fille était atteinte de ceci ou de cela. Oh, il faudrait que et Dieu est bon, parce que beaucoup de gens se sont convertis, parce que des difficultés ont survenu dans leur vie. Dieu sait que beaucoup de gens, quand tout va bien, quand la santé est bonne, quand la bourse va bien, eh bien, on ne pense pas à Dieu. On pense pas à Dieu. Il y a des gens, ils ne pensent jamais à Dieu. Ça vous étonne, bien sûr, à vous qui avez la crainte de Dieu. Il y a des gens, ils ne pensent jamais à Dieu. Mais ce texte-là, d'Amos chapitre 4, nous prouve que Dieu peut nous amener à réfléchir. Dimanche soir, il y a une dame de l'église qui m'a appelé. Elle m'a appelé parce qu'elle se faisait du souci pour quelqu'un de sa famille. Et cette famille, cette personne a eu de gros problèmes, de gros problèmes. Et elle est tombée malade. Et elle m'a dit, monsieur, vous priez parce que demain matin, en parlant de lundi, je vais voir cette personne, je vais lui parler du Seigneur parce que je sais qu'il me faut lui parler du Seigneur. Et tout à l'heure, elle m'a envoyé un texto pour me dire que cette personne était décédée. Mais voyez, bon, moi je crois que si cette sœur a été conduite pour parler à cet homme de Jésus, c'est parce que Dieu voulait sauver son âme, voyez. Mais c'est malheureux, mais combien de gens doivent être au ciel parce qu'ils sont tombés malades quelques mois avant de mourir? Alors c'est bien ou c'est pas bien? Bien sûr que c'est bien. Que les gens soient obligés de crier à Dieu. Le brigand sur la croix, peut-être jamais le repentant, peut-être que jamais il aurait dit « Souviens-toi de moi ». Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il a prié, il aurait prié, mais pas comme ça. Et cet homme, il a entendu « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est terrible. Je suis persuadé qu'il y a plein de condamnés à mort qui, avant de passer à trépas, ils ont dû dire « Mais s'il y a un Dieu, qu'il me pardonne tout ». Vous voyez, je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous. Est-ce que vous avez franchi les marches du psaume 106 qu'on vient de lire? Est-ce que vous avez dit « Mais oui, mais moi, je ne rends pas grâce à Dieu, ça ne sert à rien ». Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais ça ne sert à rien de rendre grâce à Dieu, Dieu, il le sait ». Mais c'est quand même écrit de rendre grâce. Est-ce que c'est écrit dans le Deutéronome « Quand tu mangeras, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu ». Est-ce que c'est écrit? Mais pourquoi on ne le fait pas? Ce n'est pas une bénédiction de remercier Dieu? Moi, je trouve que c'est une grâce. Et voilà, moi, quand je prie, je pense à ma femme aussi. Seigneur, merci pour les mains qui ont préparé le repas, pour qu'elle se sente valorisée. Et ce qui est vrai, je le fais de tout mon cœur. Mais en même temps, on dit, mais Seigneur, c'est grâce à toi. Ah non, monsieur Gau. Moi, si j'ai la soupe dans l'assiette, c'est parce que je bosse. C'est mes sous à moi qui... Mais, oui, bon, ça, c'est un peu cavalier. Moi, je crois que tout est grâce. Et ne commençons pas à oublier Dieu, parce qu'il se peut que Dieu, après, soit obligé de provoquer des choses douloureuses pour nous ramener à lui. Oui, on peut le tordre comme on voudra, Amos chapitre 4, on peut le calculer comme on voudra. Moi, j'ai réfléchi à ce chapitre, parce que c'est un chapitre pour les pasteurs qui est important, puisqu'il se conclut avec cette parole « Prépare-toi à la rencontre de Dieu ». C'est un message d'amour. Vous êtes d'accord? C'est un message d'amour. Et quand Dieu passe, vous voyez, du pronom personnel « vous » au pronom singulier « tu », c'est parce qu'il faut que nous comprenions bien que c'est quelque chose de personnel. Vous voyez, c'est bien de parler à tout un auditoire, qu'on soit une vingtaine comme ce soit, ou qu'on soit de 2000, en vérité, ça ne change pas grand-chose. Dieu peut dire « voilà, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez fait, vous auriez, je vous ai fait, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et moi, c'est mon devoir, ce soir, on se réunit, on est sous son regard, vous devez être certain que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur. Car vous avez vu avec moi, je te traiterai de la même manière. Vous l'avez lu avec moi ce verset, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, mais ne pense pas que tu échapperas. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont s'en sortir avec Dieu. Moi je lui dirai ce que j'ai à lui dire, je sais ce que j'ai à faire. Ne nous imaginons pas un instant que ce n'est pas nous qui allons diriger toutes choses. Ne crois pas que tu échapperas. C'est quelque chose de sérieux, ça. Je te traiterai de la même manière. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire. Est-ce que vous pouvez vous approcher de lui avec une bénédiction? Est-ce qu'une vous pouvez répondre. Heureux vous êtes si vous pouvez dire, mais moi, quand je suis béni, ça me rapproche du Seigneur. Ça me donne encore plus de reconnaissance. Il y a des gens, quand ils sont bénis, le Seigneur, ah non, au contraire, j'ai un bon boulot, je gagne 500 euros de plus, et bien le dimanche, on se balade, on va à la mer, maintenant on a du pognon pour mettre du gasoil dans la bagnole, alors le dimanche, on va se promener. Je l'ai entendu, ça, moi. Moi, je crois que si on a reçu, c'est bien le dimanche d'aller dans la maison du Seigneur. Vous ne croyez pas? Et ce que je vous dis, ce n'est pas des blagues, hein. Je ne l'ai pas inventé. Je pourrais, parce que je sais très bien que toutes les situations se présentent, mais je l'ai entendu. Ce sont des choses sérieuses. L'évangile, c'est sérieux. La maison de Dieu, c'est sérieux. Un jour, nous rencontrerons Dieu. C'est Paul le répète, il faut que tous les hommes sachent que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et ce message, vous savez, quand on n'est pas converti, on le voit comme une espèce de pression, mais moi je le vois comme une bénédiction. Dieu fait tout, contrôle tout pour nous aider à nous préparer à le rencontrer. Que ce soit dans l'Ancien Testament, prépare-toi, que ce soit dans le Nouveau Testament, dit différemment, soyez réconciliés avec Dieu, c'est la même chose, vous comprenez, à quelque chose de près, c'est la même chose. Mais chaque homme doit rencontrer Dieu, et le monde entier vit, le monde entier oublie ça. Même dans les églises, je suis persuadé que beaucoup de gens vont à l'église le dimanche matin, c'est bien, on a fait notre devoir, mais ils ne pensent pas un instant qu'il faut qu'ils se préparent à rencontrer Dieu. Dans l'Ecclésiaste, c'est écrit, Dieu t'appellera en jugement. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes les promesses, toutes les bénédictions, etc. Mais en vérité, ça sous-entend toujours cette vérité qu'il faut que nous pensions à l'éternité. Un jour, nous rencontrerons le Seigneur. Il va venir vous chercher. Ça vous rassure ou ça vous fait peur? Est-ce que ça vous effraie ou est-ce que ça vous réjouit? Vous savez, je disais tout à l'heure à une jeune fille, hein, vous savez, quand j'ai fait mon AVC, je me suis senti partir, mais vraiment partir. Et à un moment donné, je me réveillais, et j'ai entendu, il y avait 7 ou 8 personnes autour de moi en blouse blanche, et il y en avait une qui disait, vite, il nous glisse entre les doigts. Et moi, j'étais là, je dis, Seigneur, dans ma tête, j'ai dit, c'est génial. Je m'en vais, j'étais content comme tout, bon, je suis resté. Mais je veux dire, j'avais pas peur, je crois que Dieu a permis que je vive ce moment. Vous comprenez? Je pense que c'était important pour moi que je vive ce moment. Parce que moi, je prêche aux gens, mais n'ayez pas peur de la mort. Puis après, vous savez, j'ai tellement vu de gens qui m'ont dit, Monsieur Go, priez pour moi, j'en ai marre, je voudrais que Dieu me reprenne. J'en ai marre, Monsieur Go, priez pour que Dieu me reprenne. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas prié pour ça. Puis 3 mois après, vous les avez à l'hôpital. Mais ça c'est arrivé, je ne sais pas combien de fois. Monsieur Go, venez voir, venez, je suis malade, venez prier pour moi. Et bien, qu'est-ce qu'il y a? Mais priez, je ne veux pas mourir. Mais vous m'avez dit il y a 3 mois que vous vouliez mourir. Non, je ne veux pas grandir mes petits-enfants, je ne veux pas mourir. Et il faudrait savoir. Non, mais ça, je ne l'ai pas dit. Mais c'est pour vous dire. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais si tu devais partir, comment tu le vivrais? Et je vous assure, Dieu m'est témoin. Je ne pas, vous comprenez bien que je ne vais pas mentir ni exagérer. Je sais que c'est une bénédiction d'être prêt à rencontrer Dieu. Quand on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, quand on a accepté son œuvre au calvaire, quand on sait qu'il est mort, crucifié, lui, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il a tout créé. C'est écrit ou c'est pas écrit? Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. Et ce sauveur, ce Seigneur merveilleux, il s'est dépouillé de sa gloire et il est venu comme un homme. Et à 30 ans, il a commencé son ministère pour aller au calvaire, pour que son sang précieux nous lave et nous permettre de nous préparer à le rencontrer. Si vous avez accepté le sang de Jésus-Christ, si vous vous êtes repenti, si vous avez dit « oui, je suis perdu, oui, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, j'ai besoin d'un sauveur, Seigneur Jésus, pardonne-moi », eh bien vous devez après lui obéir. Et vous savez que vous êtes prêt à le rencontrer. Quelle bénédiction! Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui cherche Dieu, qui continue à le chercher? Ou est-ce que vous cherchez juste une église parce que, bon, j'ai besoin d'une église? Ou est-ce que vous cherchez Dieu? Quand est-ce que quelqu'un est prêt? Quand est-ce que quelqu'un n'est pas prêt? Voilà, ça ferait l'objet d'un carrefour avec les stagiaires. Quand est-ce que quelqu'un n'est pas prêt? Eh bien, quand il offense Dieu, quand les gens se moquent de Dieu, quand ils disent, voilà, c'est le péché, c'est pas grave. Il y a des gens qui disent, le péché, mais vous rigolez, c'est du Moyen-Âge, ça. Le péché, ça, c'est rien du tout. Quand les gens pensent que le péché, c'est pas grave, il y a des gens qui pensent que le péché, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Deux hommes, ils peuvent coucher ensemble, mais non, mais tu vas pas nous faire un flan là-dessus. Moi, je pense que le péché, c'est grave. C'est pour ça que Jésus est mort au calvaire, c'est grave. Quand tant qu'un homme n'est pas revenu à Dieu, c'est grave. C'est qu'il n'est pas prêt. Quand il foule aux pieds le sang de Jésus, la Bible parle du Nouveau Testament, des chrétiens qui foule aux pieds le sang de Jésus. Le résultat, il est terrible. Le Seigneur, il a donné sa vie, il a agonisé sur la croix. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Quand on est plus affligé par les choses de la terre que par les choses spirituelles, ben c'est qu'on n'est pas prêt. On pourrait en chercher des choses. Quand on pense qu'on a le temps, vous entendez, oh, mais j'ai le temps, moi j'ai 20 ans, monsieur Go, mais qu'est-ce que vous voulez que je me prépare à rencontrer Dieu? J'ai le temps. Moi, je crois que la vie ne nous appartient pas. Et qu'il vaut mieux se préparer à rencontrer le Seigneur dès qu'on entend un appel. Quand il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas Dieu. Vous faites la différence ? Ils croient en Dieu. Dans l'enfer, est-ce que vous pensez que les gens croient en Dieu en enfer ? En enfer, je peux vous dire que tout le monde croit en Dieu. Mais ils n'ont pas cru Dieu. Parce que s'ils avaient cru Dieu, eh bien, ils se seraient appliqués à se préparer à le rencontrer. Oui, je veux conclure, c'est un message d'amour. C'est un message de grâce. Prépare-toi à rencontrer Dieu, ça veut dire eh bien, que c'est toujours possible, que c'est une bénédiction. Je peux toujours me préparer à rencontrer Dieu. La porte de la grâce est ouverte. Vous devez pouvoir dire, eh bien, moi, je veux me préparer. Vous avez vu, c'est tout singulier. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que personne ne peut se préparer à votre place. Personne ne peut se convertir à votre place. On peut vous prêcher avec passion, avec ferveur. C'est pas pour ça que ça va marcher. C'est vous qui devez dire, que ce soit une bonne prédication ou que ce soit un simple message. Vous devez dire, mais c'est clair. C'est sérieux cette affaire. Un jour, je vais rencontrer Dieu. Il faut que je sois prêt. Il faut que je me repente. Des gens parfois disent, ben, j'ai changé d'église ou j'ai pris le baptême. Voilà, je suis prêt. Mais les gens, moi j'ai vu hélas combien de gens ont pris le baptême et ne sont jamais passés par la repentance et par la conversion. En tous les cas, c'est un choix. Ne dites pas, je suis athée, toute ma famille est athée. On m'a dit que Dieu n'existait pas. Mais c'est pas un choix ça aussi ? Est-ce que c'est pas un choix de dire, je suis athée ? C'est un choix. La preuve, c'est qu'il y a des athées qui se sont tournés vers Dieu. Ne dites pas, ben moi, vous savez, je ne changerai pas de religion. Toute ma famille est dans cette dénomination. Moi, vous savez, je ne changerai pas de religion. Je dis, moi, je vous conseille de réfléchir. Il y a un choix à faire, c'est de dire, Seigneur, je viens à toi ou je reviens. Je veux être prêt à te rencontrer. Je veux que ça soit un jour merveilleux, le jour où je vais passer dans l'éternité. Vous voulez que ce soit un jour merveilleux ? Ça dépend que de vous, parce que Dieu veut que ce soit un jour merveilleux, que vous puissiez dire « Oui, moi, je vais me préparer. » Si Dieu permet des épreuves dans ma vie pour me cadrer, ben c'est très bien. Si Dieu tolère ceci ou cela pour me former, c'est très bien. Mais moi, bénédiction ou épreuve, je veux marcher toute ma vie avec le Seigneur. Alléluia. On ferme les yeux quelques instants. Seigneur Jésus, oui, ta parole, quelle que soit sa sévérité, est de toute façon un message d'amour, puisque tu parles d'une manière ou d'une autre pour ramener les hommes à te rencontrer. Seigneur, merci pour ta parole. Quelle que soit la page que nous pouvons lire, nous réalisons de plus en plus que vraiment tu nous aimes et que tu fais tout. Même ces fléaux, plus terribles les uns que les autres, tu les permettais pour que les hommes reviennent à toi. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe sur la terre ? Eh bien, permets que des hommes et des femmes viennent ou reviennent à toi. Tu vois ce qui se passe au Moyen-Orient ? Tu vois ce qui se passe en Afrique ? Tu vois ce qui se passe, Seigneur, en Ukraine ? Seigneur, tout ce qui se passe au niveau des cataclysmes ? Seigneur, que toutes ces choses, comme nous venons de lire Amos, fasse que tes enfants reviennent vraiment à toi. Oui, Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta sollicitude. Merci pour la façon dont tu es capable de nous parler pour nous faire comprendre les choses. Seigneur, merci, vraiment, pour ce jour, oui, où nous passerons devant toi, où tu ne seras pas notre juge, mais tu seras notre avocat parce que nous t'avons accepté. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.